qui est auteur, dont le roman D'or et d'émeraude est nominé au Grand Prix européen des Utopias. Non, au Verlanger. Au Verlanger, excuse-moi, je suis désolé. Au Verlanger, qui était nominé au Verlanger. À côté de nous, nous avons Stéphane Poulain, donc expo, qui possède une expo à l'entrée du festival sur son album Au pays de la mémoire blanche. Sylvie Agouche, universitaire, je ne peux pas dire grand-chose de plus, et Vincent Guesqueur, auteur, mais aussi historien de formation, ce qui est très intéressant pour cette thématique. Philosophe aussi, Sylvie est aussi philosophe. L'histoire est quelque chose... Je pense qu'en préambule, il faut quand même rappeler que l'histoire est quelque chose d'important dans nos sociétés occidentales, tout à la fois dans nos racines de nos sociétés, autant dans ce que l'être humain veut faire du monde à venir. On pense par exemple au côté plus ou moins cyclique que certains philosophes prêtent à l'histoire dans son processus. Mais j'aimerais avant tout savoir ce que représente l'histoire pour vous en tant que simple être humain, mais aussi en tant qu'auteur, voire philosophe ou historien.
Historien, c'est pas
quoi ? Oui.
Bon, je suis... Voilà. Ça, c'est aussi l'histoire. La petite histoire, oui. Historien de formation, c'est vrai, j'ai un parcours de médiéviste surtout, j'ai fait de l'archéologie à Rome, à Ostie en particulier, et j'ai fait un travail de licence sur des comptes d'une abbaye au XIVe siècle, enfin de la ville de Saint-Maurice à Dagone, où il y avait une abbaye célèbre au XIVe, XVe siècle. Et ce parcours d'étudiant en histoire, je pense, à laisser des traces, et j'ai fait aussi ces études parce que j'avais un grand intérêt pour la mémoire, ces périodes-là. Et je crois que la méthode universitaire m'a permis d'approfondir ces périodes et ce qu'est l'histoire de manière privilégiée. C'était l'occasion, durant quelques années, de réfléchir à ce que ça représente l'histoire, comment on construit l'histoire et de quelle manière on peut s'y connecter. Et j'ai ensuite arrêté la recherche. J'aurais pu avoir une opportunité de continuer là-dedans, de faire pourquoi pas un doctorat. J'ai hésité et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment dans l'histoire, ce véritable vertige que je ressens dans l'histoire, c'est le même que je ressens dans la science-fiction. Et c'était un petit peu ce dilemme, parce que je vais écrire pour 10 personnes durant 4 ans, 5 ans, je vais faire une thèse qui sera lue par 10 personnes, ou est-ce que ben, pendant ces 4 ans, je pourrais écrire 2 romans qui seront lus par un peu plus de monde. Et j'ai assez vite fait le choix de travailler à temps partiel et le reste du temps d'écrire des histoires. Et il reste, je pense, une trace de ça de mon parcours, dans ce que j'envisage de faire, dans ce qui, moi, me fait vibrer, dans les histoires que j'ai envie de raconter. Et on peut l'envisager de deux manières. Enfin, je ne vais pas prendre trop de temps de parole, mais l'histoire, ça peut être cette histoire universitaire cadrée, de production de savoir, de théories et de sources. Et l'histoire, ça peut aussi être un cadre dans lequel on va puiser un fond culturel et qui va enrichir notre imaginaire. Voilà, en gros.
Moi, je viens prendre le relais. Alors, quand j'ai vu le sujet, qu'apprenons-nous de l'histoire ? Je me suis vue... dans ma peau de professeur de terminale de philosophie que j'étais il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je peux vous proposer une dissertation en 3 parties sur le sujet, hein, notamment à base d'Hegel, qui a écrit un texte célèbre pour expliquer qu'on ne pouvait rien apprendre de l'histoire. Mais comme on est aux Utopiales, je suppose qu'on doit aussi un peu parler de science-fiction et que c'est implicite dans le sujet. Et j'avais un truc à dire, mais je l'ai oublié. Donc je vais y réfléchir et je vais laisser la parole au suivant.
Alors, en tant que profane par rapport à l'histoire officielle, bon, j'en ai une idée. C'est ce qu'on apprend à la petite école, à la grande école après. Moi, ma perception de l'histoire, c'est que l'histoire officielle qu'on nous montre, qu'on nous apprend, qui on dit souvent, on l'a entendu, c'est un peu cliché, mais c'est l'histoire des vainqueurs. C'est une histoire qu'on nous enseigne pour qu'on puisse s'identifier, se reconnaître comme groupe, groupe ethnique, groupe politique. Ça nous permet comme ça d'avancer un peu, mais ce qui est intéressant par rapport à l'histoire, je pense, et par rapport à la science-fiction qui met à l'honneur ici, l'histoire aujourd'hui, il y a un type qui a dit, Krishnamurti, il disait que l'histoire racontée par les autres n'est pas la réalité parce qu'elle n'est pas au centre de notre propre expérience. Et c'est un peu ce que je crois par rapport à l'histoire aujourd'hui, c'est que si l'histoire relate l'histoire de nos ancêtres ou parle de nos contemporains, de plus en plus, l'humain a le désir d'en faire partie parce que l'histoire, c'est l'histoire qui le relate lui-même. Et on assiste d'ailleurs à un phénomène des téléréalités et tout et tout. Et je pense que c'est peut-être ça qui se passe avec l'histoire. On est en train de se l'approprier. Et probablement, avec la science-fiction, entre autres, on va arriver avec une histoire complètement démocratisée où elle ne parlera plus de ceux qui ont conquis et ceux qui ont pris, mais ceux qui ont réellement vécu.
L'histoire, j'ai envie de dire, si on ne sait pas d'où on vient, on va avoir du mal à savoir où on va. C'est un peu cliché, mais pour un auteur qui travaille sur l'imaginaire, qui travaille sur la science-fiction, écrire sur l'avenir sans avoir assimilé le passé, c'est compliqué, d'autant que la science-fiction, c'est une littérature qui parle du présent. Donc ça fait une tambouille temporelle un peu étrange. C'est assimiler ce qu'on a été pour le projeter dans l'avenir afin de mieux parler du présent. C'est la petite gymnastique de la science-fiction. Après, d'un point de vue personnel, ce que peut amener l'histoire, je sais que j'ai mollement suivi des études d'histoire et pas très très longtemps. Je les ai pas suivies très très longtemps, mais ça m'a quand même ça a marqué la construction de mon raisonnement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la construction de mon imaginaire, dans la manière dont je le développe sur l'écriture. J'ai besoin de sourcer énormément mon imaginaire, de remonter le plus loin possible, même si c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans les pages. J'ai besoin de remonter aux origines, de comprendre pour pouvoir exprimer les choses. Ça crée une empreinte. L'approche historique, ça conditionne réellement la manière de penser, d'avancer, de plein de choses.
D'ailleurs, à ce propos, par rapport à ton livre « D'or et d'émeraude », qui a quand même un grand fond historique de conquista en Amérique latine, comment tu t'es documenté et quel a été le poids de l'histoire dans la construction du roman? Est-ce que tu as eu d'abord l'idée de construire le roman comme ça, ou est-ce que c'est parce que tu t'es documenté sur cette période historique et sur la Colombie que t'es venu l'idée du roman?
Alors le point central, en fait, c'était réellement cette interrogation sur l'identité des personnages qui donc sont des enfants adoptés et qui vont à la recherche de leurs origines. Et fatalement, je savais qu'à un moment donné ou à un autre, ça allait m'amener aux origines de la Colombie et de ce qu'il y avait avant la Colombie, donc les populations indiennes qui étaient là avant l'arrivée des Espagnols. Comme l'histoire se situe à Bogota, donc assez logiquement, le point de départ, c'était l'Entrada de Quesada qui date de 1536, et puisque c'est le conquistador qui a fondé Bogota. Et je me suis documenté un peu comme j'ai pu, parce que comme c'est pratiquement un contemporain de Pizarro et d'Almagro, mais qu'il est nettement moins romanesque, on a assez peu écrit sur lui. Il y a très peu de documents. Les documents qu'il a pu laisser lui-même ont disparu. Donc c'était à la fois frustrant et en même temps une grande chance, parce que ça laissait pas mal de place pour justement combler les vides avec la fiction. Pour les Indiens Muisca qui peuplaient l'altiplano avant l'arrivée des Espagnols, c'est pareil. Le livre de référence date de 1958. Il y a une thèse qui a été faite depuis, mais à laquelle je n'ai pas eu accès. Et il y a voilà, assez peu de choses. Donc après, la difficulté, une fois que j'avais rassemblé un peu toutes ces sources, ça a été d'accrocher de la chair sur ces personnages et de digérer cette documentation historique. Mais voilà, je disais que c'était que ça marque, c'est une empreinte. J'ai eu besoin d'aller chercher assez loin. Par exemple, tous les noms qui sont cités des Espagnols sont réellement les noms des survivants de l'Entrada, de Quesada. Parfois même, je dis d'où ils viennent et j'ai réussi à retrouver de quel pays, de quelle région d'Espagne ils venaient. Enfin, c'est quelque chose qui me rassure dans mon processus d'imaginaire d'aller assez loin dans la documentation.
J'ai une question à te poser. Est-ce que tu allais lire des ouvrages qui parlent de ces périodes, mais est-ce que tu t'es intéressé aussi aux manuscrits originaux, par exemple, je sais pas, sur l'équivalent de Gallica, de retrouver des facsimilés ou vraiment des choses que tu allais lire dans le texte pour t'inspirer?
Alors j'ai pu. En ce qui concerne les Muisca, c'était pas une civilisation de l'écrit, donc comme ça c'est tout de suite vu. Il y a eu effectivement pas mal de documents qui ont été faits par les premiers prêtres de l'Entrada, qui sont accessibles en anglais, donc ça va. Pas mal de documents aussi mis à disposition par la bibliothèque de Bogota, qui sont en espagnol. Grâce à Google, à Google Trad, on arrive à une compréhension parfois un peu empirique, mais on y arrive. Et d'ailleurs, c'est, par exemple, voilà, les détails sur la vie de certains des membres de l'Entrada viennent de documents qui datent de l'époque et mis à disposition, mis en ligne par la Bibliothèque nationale de Bogota.
Enfin, c'est juste. Là, la description, je n'ai pas lu ton livre, je suis désolée, mais la description de la jeunesse de ton travail suggère vraiment la démarche caractéristique d'écriture du roman historique, en fait. Donc, sans déflorer le texte, quel est l'élément science-fictionnel ou fantastique dedans et comment, pourquoi écrire pas du roman historique, mais quand même du roman de l'imaginaire, si apparemment tu es si attachée à la précision des faits?
Alors,
voir de l'histoire.
Alors, j'ai donc besoin d'un cadre historique très marqué pour pouvoir avancer. Mais je viens de l'imaginaire, c'est ma culture littéraire, donc ma boîte à outils littéraire, c'est l'imaginaire. Donc, j'ai voulu être le plus rigoureux historiquement jusqu'à à peu près la moitié de cette partie historique. Pour que justement, le moment où ça achoppe, je redevienne maître de cette partie. Et puis en fait, j'avais jamais fait de roman historique. Puisque cette première moitié de la deuxième partie du roman, c'est effectivement presque un roman historique. J'en avais jamais fait. Je m'étais toujours juré de jamais en faire pour pas avoir à me colter toute cette documentation. Et en fait, c'est assez addictif d'une part. C'est un processus plutôt intéressant et plutôt marrant à faire. Alors c'est l'apprentissage et c'est la digestion. Et c'est un travail qui est pas un travail d'historien. C'est pas le travail sur l'histoire, c'est pas le travail sur la mémoire non plus, puisque j'ai aucune légitimité sur la mémoire ni des Indiens ni des conquistadors. C'est vraiment une reconstruction entre les deux. Et donc c'était très, très marrant à faire et c'était très marrant de foutre le bordel dans ce jeu si précis que j'avais fait. Donc voilà.
Je te remercie Sylvie pour cette question. Mais ce que je voulais poser aussi comme question par rapport à l'histoire, c'est par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis à peu près 2000 ans du côté occidental occidentale du monde. Est-ce qu'au bout de ces 2000 ans, on n'en tire pas un enseignement qui, justement, du point de vue fictionnel et du passage à la science-fiction pure, nous pousse à nous couper à écrire d'autres choses et créer justement d'autres univers pour se couper justement de nos racines? Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense à toi, par exemple, sur Cygnis, qui est quand même un type de post-apocalyptique où il n'y a plus d'histoire, où on arrive dans des terrains, des contrées totalement vierges, où il n'y a quasiment plus de traces de monde connu par Gueguetora, par exemple.
Alors, paradoxalement, cette rupture, elle est pour moi un prétexte à revenir sur la trace et à faire, en l'occurrence, un travail sur la mémoire. Alors, pas nécessairement la mémoire d'un peuple donné ou d'une seule société, mais une mémoire culturelle, la mienne, en fait. Le post-apocalyptique, voilà, on fait table rase. Dans Cygnis, on se situe dans un monde qui a connu une destruction. On en a des vestiges après quelques siècles et on n'est plus capable de les comprendre ni de les interpréter. Alors évidemment, c'est une interrogation de quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire. Si je reprends un peu à l'envers ta question depuis le début, c'était après 2000 ans d'histoire, est-ce qu'on arrive à apprendre quelque chose? Moi, je n'ai pas l'impression que l'histoire apprennent quelque chose. J'ai jamais tellement apprécié l'idée qu'on puisse définir des lois de l'histoire, qu'elles soient cycliques, ou qu'elles s'arrêtent, ou qu'elles fonctionnent par dialectique. C'est des boîtes à outils de philosophes, d'historiens, quand ils réfléchissent à leur discipline. Mais je crois que dans la pratique, c'est quasiment impossible. Sinon, on pourrait en faire des prédictions. Et on sait très bien que toutes les sciences humaines, elles sont quasiment imprédictibles. Et quand on regarde même des disciplines très, très quantitatives comme l'économie, déjà on a affaire à des théologiens, pas des économistes. A fortiori, l'histoire, c'est un peu pareil. On arrive pourtant à dire que c'est une science parce qu'on a développé des outils très rationnels pour mettre en évidence les faits, pour travailler sur les sources, pour construire un catalogue de ce qu'on connaît. Alors c'est pas prédictif, mais c'est rétrospectif et téléologique un peu. On revient sur ce qu'on connaît de l'histoire et puis on retravaille sans arrêt le fait, la trace, avec les différentes disciplines. Et l'histoire et sociologie ont des rapports très très étroits. C'est un regard, pour moi, le regard d'historien, et je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un regard sur le présent. En fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui me relie au présent dans l'histoire. C'est l'incroyable différence, le véritable vertige d'être au bord du temps et de regarder 2000 ans d'histoire, de regarder les figures prises dans la lave de Pompéi, de regarder des momies égyptiennes, de voir ces corps qui auraient dû être détruits et réduits en poussière, puis qui nous sont restitués comme des photographies. Ça, c'est du voyage dans le temps. Et c'est là que je vois une véritable collusion entre la science-fiction et l'histoire. Et qu'est-ce que j'en apprends? L'apprentissage, il se situe à deux niveaux. C'est d'abord, je me mets à l'école de l'histoire, j'apprends l'histoire. Et après, est-ce qu'on va en tirer des leçons au niveau social? J'ai pas non plus l'impression. Pas plus qu'on est capable de faire des règles, on est capable de faire des centrales nucléaires sécurisées au Japon. Enfin, je veux dire, on va probablement se moquer du monde encore longtemps. Hein. On est incapable de tirer des vraies leçons. Par contre, je crois qu'on est capable, à notre échelle humaine, d'en tirer de... Ouais, une espèce de sagesse continue et puis de réservoir de référence pour se mettre en cause, se mettre en doute.
Tu disais, si au bout de 2000 ans d'histoire, est-ce qu'on peut, grosso modo, faire table rase et passer à autre chose? Mais je ne pense pas qu'on en soit capable, de même que il n'y a pas de science-fiction, de pure science-fiction parlant d'extraterrestres qui se dégage complètement d'un point de vue humain. On est le produit de notre histoire. C'est ça aussi ce que ça nous apporte. Et on ne peut pas... Même si tu peux imaginer d'extrémiser le processus créatif jusqu'à la négation de l'histoire, tu nies quand même quelque chose qui est constitutif de ton imaginaire. Tu ne peux pas faire abstraction de... Enfin, c'est presque aussi fumeux que c'est des concepts de la fin, comme la fin de l'histoire ou des choses comme ça. L'histoire ne finit pas. L'histoire se construit en permanence. Et elle se construit aussi, comme le disait Vincent, sur la manière dont on a de la... sur le regard qu'on porte sur le passé, qui évolue selon le présent, selon les préoccupations du présent, la recherche historique, se focalise sur tel ou tel aspect du passé en fonction, en fonction des besoins du présent.
Et j'avais une autre question particulièrement pour toi, Stéphane, concernant par exemple aux États-Unis. Est-ce que le rapport à l'histoire est un peu plus différent, enfin, aux Amériques en tant que telle, du fait que le rapport, enfin, la durée de l'histoire de la nation est vraiment réduite?
Oui. Oui, fondamentalement, notre histoire est très courte. Et au-delà de cette période, les référents qu'on a sont finalement l'Europe, la France particulièrement, bon, et d'autres pays d'Europe. Et malheureusement, on ne s'y identifie pas à cette histoire-là parce qu'elle n'est pas dans la vie. Tu parlais de au présent, l'histoire au présent. Si elle n'est pas là au présent, on ne la sent pas, cette histoire-là. Ce que ça donne, par contre, c'est que, étant donné que l'Amérique est quand même assez jeune, il y a peu de richesses qui proviennent de notre histoire, des richesses palpables, soit au niveau de l'architecture, par exemple, ou la littérature, la peinture. Mais ça fait qu'on vit dans un climat de naissance constamment. C'est très riche parce qu'on est toujours, on est en marche, on est dans l'histoire et on ne voit pas, on ne se perçoit pas comme faisant partie de l'histoire ou étant en marche dans l'histoire. On est tout simplement là et les choses arrivent. Je crois aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'historiens qui seraient d'accord pour le dire, de la part fondamentale des peuples qui étaient sur le continent américain avant que le blanc arrive, ils ont modelé l'imaginaire et l'intellect des blancs qui sont allés habiter là-bas parce qu'ils ont habité ensemble. Il y a Samuel de Champlain, entre autres, je crois, qui a écrit énormément de carnets. Et il y a un truc, je vais essayer de le dire dans mes mots, je ne suis pas un lettré, mais ce que disait Samuel de Champlain, quand ils sont arrivés, ils ont fait des échanges avec les peuples iroquois. C'était des commerçants, les peuples iroquois. C'est des gens, si tu avais quelque chose, ça les intéressait, ils voulaient l'avoir pour pouvoir faire des échanges. Alors, quand ils ont vu les Blancs arriver avec des casseroles et des casques et des armes, des miroirs et toutes sortes de pacotilles, ils ont voulu acquérir cette richesse-là pour pouvoir troquer avec les autres peuples indiens. Quand les Blancs ont vu ça, ils se sont dit aussi qu'il aurait peut-être été intéressant d'échanger les fourrures. On a connu le commerce par après. Mais il y a un truc qui est arrivé intéressant, c'est que les Iroquois ont dit aux Blancs, vous avez des femmes aussi, et on serait intéressé à échanger avec vous. Et les Iroquois, étant un peuple qui vivait dans une nature qui était très hostile, ils étaient parfaitement adaptés. Leur idée d'échanger les Blanches était qu'ils étaient parfaitement conscients que ces femmes-là, probablement, pouvaient contribuer à faire en sorte que leur race s'enrichissent. Même s'ils n'avaient pas une connaissance de la biologie, ils étaient parfaitement au courant, voyant une femme assez grasse et assez bien plantée, ils pouvaient se dire, cette femme-là, elle va résister dans une tempête de neige. Samuel de Champlain et les gens de l'époque, ils étaient tout à fait d'accord avec le principe d'échange, sauf qu'ils ne voulaient le faire qu'à sens unique. Et c'est ce qui est arrivé avec les terres. C'est très intéressant de voir que toutes les ententes qui ont été faites avec les colons et les représentants de la France, dans les contrats, à l'époque on disait des pactes, mais c'est quand même des contrats, il était dit que les Iroquois cédaient toutes leurs terres à qui ils voudraient bien venir y vivre. Ils pouvaient bénéficier de tout ce qui était là. Et les Français ont demandé, eux, plutôt, contrairement aux Britanniques, ils ont demandé, eux, à ce qu'on leur donne les territoires, qu'on les inscrive et que c'est des territoires qu'on leur donnait soient bien, bien, bien décrits. Et finalement, les peuples amérindiens se sont fait un peu avoir parce qu'ils les ont perdus. Ils les réclament toujours aujourd'hui. Alors, on en était à savoir si on avait, dans notre histoire, si on avait si chez nous, la valeur de l'histoire, il restait un point extrêmement intéressant dans les écrits de Samuel de Champlain, et non Champoint. Samuel de Champlain a relaté une pensée ou une maxime qui appartenait au peuple iroquois et qui était, c'était vraiment leur pensée, c'était fraternité, égalité, et vous connaissez l'ordre. Et c'est à se demander si le contact avec les peuples iroquois de la Nouvelle-France n'ont pas été à la base de la Révolution française.
Ce serait un beau sujet du chronique ou de... ou de fiction, justement.
Peut-être pour présenter les choses de façon un peu plus théorique, je pense qu'il y a une chose toute simple qu'on n'a pas dit, c'est que ce qu'on apprend de l'histoire, c'est ce qui s'est passé, et c'est déjà un fait. Enfin, on essaye en tout cas d'apprendre ce qui s'est passé, même si après on peut toujours avoir des controverses pour savoir si ça s'est passé ou pas. Mais rien que ça, c'est du savoir ce qui s'est passé telle année, etc., etc. Voilà, il y a cette chose-là. Après, je pense qu'il faut faire la distinction, et je reviens donc à ma toute première remarque, de qui il s'agit quand on dit qu'apprend-on une histoire ? Parce qu'il y a ce que peut apprendre... c'est pas forcément des différentes personnes. Ce qu'on peut apprendre en tant qu'individu, on peut avoir une curiosité toute simple. Qu'est-ce qui s'est passé, au temps de la Renaissance ou au temps des Babyloniens ? Et donc, il s'agit juste de satisfaire une curiosité. Il y a aussi donc qu'est-ce que nous apprend l'histoire, en tant que philosophe ou en tant que personne qui s'intéresse au devenir de l'humanité. Et il y a la question de l'écrivain aussi, adressé à l'écrivain, qu'est-ce qu'apprend l'écrivain, et j'imagine comment l'écrivain peut utiliser l'histoire. Donc je pense que les trois questions, même si elles ont des points d'intersection, n'auront pas forcément exactement la même réponse. Deuxième remarque que je voulais faire, ou plutôt troisième remarque que je voulais faire, je suis tout à fait d'accord avec toi, et en fait c'est une chose que je voulais dire au début. De mon point de vue, en fait, on ne peut pas réduire vraiment la question à l'histoire, et c'est les sciences humaines en fait qui sont en cause. Et je pense que la question est peut-être plus, j'aurais probablement envie de dire quasiment la même chose si la question était qu'est-ce que nous apprennent les sciences humaines. Et je pense par exemple donc au Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un des premiers livres de science-fiction politique et qui est fondateur de tout un genre. Et en fait, ça apparaît, je crois, dans une note dans le roman, mais il y a toute une partie de la structure politique qu'imagine Aldous Huxley, qui lui est en fait inspirée par des textes écrits, je crois, par Margaret Mead, qui était une anthropologue. Et en fait, il dit à un moment qu'il s'est... Enfin, c'est à l'intérieur de la fiction, le responsable du centre d'incubation qui s'exprime explique que finalement la société fordienne a été élaborée sur le modèle des sociétés libres qu'on croyait avoir découvert dans les îles du Pacifique. Et donc là, sur l'histoire précisément, j'ai pas précisément d'exemple qui me soit venu, mais je pense que ce qu'on peut dire qu'apprend l'histoire aux philosophes, mais pas aux philosophes professionnels, aux philosophes en chacun de nous, c'est de quoi l'humanité est possible. Qu'est-ce qui est possible, et une source évidente d'informations sur ce dont l'humanité est capable, ce qui est déjà arrivé ailleurs dans le temps ou ailleurs dans l'espace. Et, quatrième remarque peut-être, je m'y perds un petit peu, quelque chose d'un petit peu plus... tragique, mais je pense que c'est important d'en parler. J'ai organisé un colloque en juin sur un tout autre sujet, c'était sur 24 heures chrono, et l'un des invités s'appelle Ophir Lévy, et il fait une thèse sur l'influence de la Shoah dans la science-fiction. Donc en fait, son travail consiste à répertorier dans le cinéma de science-fiction. Dans le cinéma donc de science-fiction, toutes les traces qu'on peut identifier de la Shoah. Et donc, je me suis un petit peu posé la question, on en a discuté, il voulait avoir un peu mon avis. Et là, je me suis aperçue en fait que c'est central dans les films de science-fiction, quasiment dans tous les films de science-fiction, que ce soit de façon explicite, même dans Star Trek, dans la série Star Trek, elle a l'air bien innocente comme ça, ou même dans Cowboys versus Alien, il y avait des références. Donc il y a systématiquement en fait des références, parce que je pense que l'une des questions, en tout cas du cinéma de science-fiction, il y a beaucoup moins d'œuvres à visualiser de façon comme ça intuitive, donc je m'aventurerai pas à généraliser à la littérature, mais je pense qu'une des questions clés qu'essaye de résoudre le cinéma de science-fiction, c'est une question en fait une des questions clés aussi que la philosophie essaye de résoudre, c'est comment faire pour que ça n'arrive plus jamais. Quelles ont été les conditions qui ont été réunies pour que la Shoah se produise, et comment faire. Donc soit on rejoue ce qui s'est passé autrement sur un mode fictionnel, mais là, disons qu'il y a quelles sont les conditions et comment faire pour que ces conditions ne se reproduisent pas.
Et comme à chaque fois, c'est des cas singuliers et particuliers, on ne peut donc pas les anticiper.
Non, bah alors c'est vrai, alors, je ne veux pas non plus monopoliser la parole, mais c'est vrai que tout à l'heure, tu as expliqué qu'il n'y avait pas de loi de l'histoire, enfin, que c'était absurde. Voilà, oui, enfin, que tu étais plutôt de ce côté du débat, qu'il n'y avait pas, que c'était vain d'essayer de chercher des lois de l'histoire. Disons que je pense que peut-être qu'on n'en a pas encore trouvé, mais pendant au moins 2500 ans, si ce n'est plus, on n'avait pas trouvé des lois de la physique et puis on a fini par en trouver. Donc peut-être qu'on n'a pas encore trouvé des lois de l'histoire et visiblement on n'a pas encore trouvé des lois de l'économie, mais il y a des sciences qui mettent des milliers et des millions d'années à surgir du terreau mouvant de la philosophie. Mais moi je crois que c'est possible et qu'il faut juste se remettre à la tâche, apprendre de ses erreurs. Et même si le matériau humain, et là on revient à la question de fondation qu'on a abordée précédemment, même si le matériau humain semble par essence rétif à tout ce qu'on exige d'une science, c'est-à-dire la possibilité de prédiction, je pense qu'on peut... Faut pas abandonner la tâche, parce que c'est la tâche de la rationalité, de trouver des lois.
Peut-être que ce qui irait dans ton sens, c'est aussi la capacité qu'on a à manipuler l'être humain par le marketing ou la politique, simplement. Donc on arrive quand même à agir sur les bonnes cordes. Néanmoins, les personnes qui agissent sur ces cordes, ces codes et ces cordes, ce sont des personnes qui font des choix. On a le libre arbitre. Et le gros problème de l'être humain, c'est qu'il n'est pas aussi prévisible qu'une particule ou qu'un corps concaténé de particules plus grand. Et je crois que c'est là la grande limite de la prédiction et éventuellement de l'élaboration de lois.
En fait, si on arrivait effectivement à la... comme tu l'évoquais, si on arrivait à dégager des lois sur l'histoire, ce serait la psychohistoire d'Isaac Asimov. Pour l'instant, force est de constater que, je suis assez d'accord avec Vincent, on n'y est pas du tout, quoi. Les grands génocides du XXe siècle n'ont absolument pas, enfin, la première moitié du XXe siècle n'ont absolument pas empêché les génocides en Afrique ou dans les Balkans de la deuxième moitié. On a parfois quand même la sensation que ce qu'on apprend de l'histoire, c'est quand même quelque chose de très personnel, mais que en grand, les gens ont un peu de mal à apprendre de l'histoire, ont un peu de mal à tirer les leçons de ce qui se passe et du passé. Et là, on est peut-être aussi dans cette volonté de manipulation. On le voit bien, on voit bien la manière, par exemple, dont les programmes d'histoire changent à chaque fois que le président change de bord.
Dans ces cas-là, on apprendrait au moins de l'histoire que l'homme est irrécupérable et que quoi qu'on fasse,
je suis assez d'accord.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est ce que tu dis. C'est drôle quand même. L'homme n'est pas irrécupérable. L'ennui avec l'histoire. Il y a un type qui a fait un film. C'est un cinéaste canadien, Tom Egoyan, qui a fait un film qui s'appelle Ararat. Et c'est un jeune garçon qui décide de faire un film autour du peuple arménien qui a subi un génocide. Et la conclusion de son film est assez intéressante, je trouvais. C'est que ça résume bien l'histoire pour moi. La conclusion de son film, c'est que au nom des gens qui ont souffert, on doit parler d'eux, on doit se rappeler pour ne plus commettre l'erreur, justement. Mais à chaque fois qu'on le fait, par respect pour eux, on ravive des plaies. Ce qui peut-être veut dire pour moi que l'histoire, lorsqu'elle nous touche et lorsqu'on en souffre, lorsqu'on en est concerné, on devrait la taire, finalement. On ne devrait pas en parler. Parce qu'on est concerné. Et on devrait l'apprendre à ceux qui ne sont pas touchés par l'histoire, parce qu'ils ne sont pas concernés. Il faudrait faire véhiculer par des peuples interposés notre histoire, et nous, on pourrait faire vivre leur histoire à eux, et jamais être en contact avec.
Mais là, on n'est plus dans l'histoire, là, on est dans la mémoire. Et c'est vraiment deux choses vraiment différentes. Et l'histoire, son travail aussi, c'est de faire l'histoire de la mémoire. C'est de voir comment justement ces plaies se cicatrisent, comment c'est l'impact de ces événements dans l'inconscient collectif. Voilà, ça c'est un travail historique. Après, l'approche de la mémoire, c'est encore différent. Et sur la fiction, justement, ce qui est intéressant, c'est de se retrouver entre les deux, de n'être ni un historien, ni de faire œuvre de mémoire, parce qu'on n'a pas nécessairement la légitimité pour le faire.
J'ai pas l'impression que l'histoire et la mémoire soient aussi dissociées, néanmoins, parce que quand on dit qu'apprend-on de l'histoire, au fond, c'est ça. Il faut faire œuvre de mémoire c'est sans doute ce que tu voulais dire, pour pas reproduire les mêmes erreurs. Tu remarques qu'on n'y arrive pas. En fait, peut-être ce qu'on veut dire, au fond, c'est que chaque société qui élabore ses valeurs, à la lumière de ses traumatismes, essaie de garder la mémoire de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a souffert, pour pas continuer dans ses erreurs. Mais c'est clair que 2000 ans plus tard, allez, 100 000 ans plus tard, Adolf Hitler, on s'en fout. Ça compte pas. Les millions de morts qu'il a fait, on s'en fout, on s'en rappelle même pas. Qui se rappelle de cet horrible génocide qu'il y a eu dans le paléolithique inférieur en Australie? Il n'est pas documenté, donc on a plus cette mémoire-là. Donc la mémoire, elle est inscrite dans la société qui la véhicule. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrive à constituer des valeurs et des points de repère, en se plantant, en se disant « ça fait mal, je corrige ».
Mais en fait, tu disais toi-même, si malgré tout, malgré le fait qu'il n'y ait pas de loi qui puisse amener une prédictabilité des événements, si malgré ça, l'histoire est une science, c'est que justement son travail, c'est de aussi faire l'histoire de cette mémoire. Le travail sur la mémoire, c'est pas un travail d'historien, à la limite c'est presque plus un travail de sociologue.
Alors, moi je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. Il y a une autre chose toute simple que nous apprend l'histoire, c'est que il y a de plus en plus de choses qui s'accumule au fur et à mesure du temps. Et mon Dieu, être philosophe au temps de Platon, il y avait quoi, 3-4 auteurs à connaître, c'était pas compliqué. Alors que maintenant, c'est juste impossible. Et en tant qu'universitaire, il y a un vrai problème purement cognitif de réussir à... En plus, c'est exponentiel comme la population. Il y a de plus en plus de choses qui se publient. Et il y a de plus en plus de choses qui sont documentées. Mais là, il y a tout simplement le problème d'un cerveau humain, contemporain, naturel, n'est pas adapté à faire une synthèse vraiment adéquate de toutes les choses dont il devrait faire la synthèse pour être à la hauteur de ses prétentions. Donc, c'est une question qu'aborde notamment un auteur que j'ai déjà cité dans une précédente table ronde, donc Brian Stableford dans Fountains of Youth. Hein, comment faire de l'histoire dans 1000 ans ou dans 100 000 ans? Alors est-ce que l'histoire, ça va plus être que faire du tri, hein, et ce sera juste identifier dans la masse de la documentation qui va encore se multiplier, parce qu'on aura tout sera filmé, il y aura des caméras de surveillance partout, et puis on aura tout sous la main. Donc est-ce que ça va juste être faire le tri, ce qui sera déjà un travail énorme entre les différents événements, ou est-ce que ce serait plutôt, je sais pas, un truc un peu sélectif, ou est-ce que on peut imaginer des puces qui agrandissent à la fois notre mémorisation et notre capacité de synthèse, de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir une vue synthétique à la hauteur du temps qui passe de l'histoire de l'humanité.
Oui, tu peux. Ça pose un autre problème, c'est celui de la vulgarisation. Parce que si le savoir s'élabore dans des cénacles fermés, qui deviennent de plus en plus complexes et qui manipulent de plus en plus d'informations, alors peut-être que l'homme transformé, le post-humain, pourra un petit peu mieux gérer toute cette complexité, mais peut-être qu'on peut, à notre échelle, aujourd'hui, avoir des attentes par rapport à une meilleure vulgarisation du savoir, des sciences humaines en général, c'est pas forcément de l'histoire, et je dirais même des sciences en général, qui sont à la fois extrêmement mal enseignées, extrêmement mal... on arrive extrêmement mal à intéresser les jeunes à des carrières scientifiques à venir. Et donc c'est un problème plus d'épistémologie, de science en général, que de simplement de l'histoire. Alors je me permets de dépasser juste deux secondes le cadre défini par qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire. Moi, je retiens aussi que on a de la peine à intéresser les nouvelles générations à certaines sciences.
Il y a quand même une différence. La science n'est pas cumulative. C'est-à-dire qu'une fois que une théorie a mis à bas une autre, alors oui. Oui, mais on n'enseigne pas, on enseigne, quand on fait de la philosophie ou de l'histoire, on enseigne nécessairement en même temps l'histoire de la discipline. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait, on peut éventuellement le discuter pour la philosophie, mais c'est difficile quand même d'en sortir. Quand on enseigne la physique ou les mathématiques, on peut utiliser l'histoire de la discipline, et c'est en général très pédagogique de le faire, mais on enseigne les lois telles qu'elles sont utilisées. On n'enseigne pas comment Newton est arrivé à sa loi avec toutes les tentatives qui ont été faites après. On enseigne Kepler et pas Tycho Brahe, etc. Alors ça peut être pédagogiquement intéressant d'utiliser le cheminement, mais ça n'est pas le contenu. Et du coup, là où l'enseignement de l'histoire a un problème, c'est qu'on est obligé, en plus avec les réformes récentes, de faire vraiment des choix drastiques sur ce qu'on va enseigner ou pas, parce que, disons que nécessairement, on est obligé de faire de la sélection et de subjectivement choisir des faits, alors que je pense que dans la science, il y a quand même une certaine objectivité des lois qu'on va enseigner. On va enseigner Euclide ou on va enseigner le principe de l'inertie et pas tel point beaucoup plus obscur d'une théorie qu'on apprendra peut-être plus tard.
Mais malgré le fait que les sciences humaines, dont l'histoire, a un référentiel totalement cadré, normé, dont la démarche scientifique est tout à fait vraie, est-ce que l'histoire n'a pas le problème de posséder aussi une certaine subjectivité de point de vue par rapport à des faits purement historiques et pragmatiques dans l'interprétation?
C'est de toute manière impossible de s'extraire totalement du temps auquel on appartient. Donc la démarche historique est une démarche scientifique, donc on est censé effectivement être capable de faire la part des choses sur les différentes sources. Et c'est de cette manière-là qu'on redécouvre des pans entiers d'histoire. Par exemple, il y a tout un courant qui pour l'instant est largement minoritaire, mais qui s'affirme sur l'étude des peuples amérindiens avant la conquista. Il semblerait que ces grandes étendues vierges à peine peuplées étaient tellement peuplées qu'elles l'étaient plus que probablement plus que l'Europe, que ce qu'on prenait pour des espaces naturels n'étaient pas des espaces naturels mais des espaces mis en valeur d'une manière qui était totalement différente et incompréhensible pour les Européens qui arrivaient là pour la première fois et qui eux n'y ont vu que des espaces naturels. Et et c'est leur vision, puisque c'est la vision des vainqueurs qui nous est parvenue et qui conditionne notre vision de l'Amérique, précolombienne. Mais on est forcément prisonnier de ces préjugés et de notre époque. Mais non, l'histoire est une approche scientifique et elle s'extrait l'historien s'efforce de s'extraire de la contemporanéité.
Oui, d'ailleurs, c'est pas pour rien que les récents développements de l'historiographie poussent maintenant l'historien, dans son introduction, à dire quels sont ses a priori, ses préjugés, son école, et de plus en plus à se formaliser et à définir ses propres tendances.
Non, je disais juste à donner son axiomatique, en fait. Oui, oui, c'est bien. J'étais pas au courant.
Donc ça montre bien que l'historien est conscient qu'il appartient, en élaborant le savoir, à ses propres distorsions. Et pour faciliter le travail des historiens futurs, il les énonce.
Cela dit, c'est une démarche historique qui est assez récente. Hein. Enfin, ça date de la Nouvelle Histoire et de Brodel. Hein.
En fait, ça, c'est le problème de toute science. Toute science est fondée sur des hypothèses. Donc, plus les sciences sont dures, il y a l'historien des sciences qui s'appelle Thomas Kuhn dans La structure des révolutions scientifiques, il explique très bien. Plus les sciences sont dures, moins il est nécessaire que les praticiens de ces sciences aient besoin d'avoir conscience des présupposés sur lesquels ils fondent leur pratique, puisqu'il peut très bien qu'au cours de toute leur carrière, ils n'aient jamais à remettre en cause leurs présupposés. Et même peut-être que le fait qu'ils n'aient pas conscience qu'ils ont des présupposés, même dans une pratique scientifique dure de physique, puisque, disons, lui, son modèle, c'est la physique, le fait même de ne pas en avoir conscience, ça les aide à d'autant mieux à faire avancer la science. Mais il n'empêche que quand on se retrouve dans un moment historique qui appelle une révolution scientifique, comme ça a été le cas à l'époque de Newton ou à l'époque d'Einstein, il est nécessaire, et c'est là qu'Einstein et d'autres ont pu réaliser la révolution dont ils ont été à l'origine, c'est qu'ils avaient conscience des présupposés. Et c'est parce qu'ils avaient conscience que ce que disait Newton sur la nature de l'espace et du temps n'était pas une vérité comme on l'apprend encore aujourd'hui au collège, parce que c'est plus simple, mais une axiomatique, qu'il a pu du coup le remettre en question. Et ça, c'est vrai que, à mon sens, dans tout discours qui prétend à une vérité, à une scientificité molle ou plus dure, ça me semble absolument nécessaire de, le plus possible, que ce soit en philosophie, en sciences, en histoire, n'importe où, il est absolument nécessaire, et c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours conscience soi-même de ses présupposés, mais en tout cas le plus possible de les énoncer le plus clairement. Et donc je suis ravie d'apprendre qu'en histoire cette idée rentre. C'est la seule façon qu'on a, on peut pas sortir de notre subjectivité, mais on peut la contrecarrer en partie, et je pense que ça peut, d'exprimer les présupposés dont on a conscience, ça permet en partie de neutraliser cette subjectivité de laquelle on ne peut pas sortir quand on fait de la science.
Et finalement, en ce qui concerne, si on revient un petit peu à la littérature, après tout cet écart par l'académie, j'ai l'impression que en écrivant, je fais un peu le contraire. C'est-à-dire que je vais intégrer ma subjectivité là-dedans et que je vais faire le travail inverse pour faire paradoxalement ressortir avec les matériaux de l'histoire des tressaillants de mes interrogations et de mon regard sur le monde.
Je suis assez d'accord, en fait. C'est-à-dire que l'histoire, surtout dans la science-fiction, l'histoire fait partie de la boîte à outils de l'imaginaire. C'est pratiquement un incontournable. Alors, c'est plus ou moins visible en fonction des auteurs, mais bon, je pense à un auteur comme Silverberg, même lorsqu'il écrit du space opéra le plus échevelé, c'est pratiquement un livre historique.
Non, mais alors effectivement, une œuvre de fiction, de science-fiction en particulier, ou disons les œuvres de fiction qui sont sur le modèle du roman réaliste, l'une des tâches du romancier est de cacher en partie au moins les présupposés de son univers. Ils sont comme dans la vie réelle, on est in medias res en fait. On est dans un monde qui a ses lois et on les ignore en partie ou totalement au début. Et très souvent, une partie de la quête, en particulier dans le roman de science-fiction ou le roman fantastique, ça va être d'identifier les lois qui régissent l'univers, mais on ne les identifie pas toutes. Et moi, en tant que, disons, philosophe qui travaille sur des œuvres de science-fiction, finalement, une grande partie de mon travail concret, c'est de trouver les lois qui régissent l'univers fictionnel et d'essayer sans doute de refaire en fait le chemin inverse qu'a fait l'auteur, c'est-à-dire de retrouver ce qui structure le monde et qu'on est censé comprendre de façon, pas inconsciente, mais disons dans le flux, dans le flux de la lecture. Donc, et c'est là, je pense, que la fiction est intéressante, parce qu'il y a du point de vue de l'écrivain, il est dans une position divine de création de monde et il met dans ce monde des personnages qui ont nécessairement une vue partielle de ce monde et ils jouent avec eux.
Avec un minimum de rétro-engineering sur Dune, on se retrouve quand même avec un manuel d'histoire des civilisations presque parfait.
C'est pas faux. Fugger qui avance, je me demandais si dans le public il y avait des questions.
Moi j'ai une question. à Stéphane. Bonjour Stéphane. Tu disais à une table ronde, est-ce que c'était hier peut-être, que ton déclic pour le dessin, c'était une image qui est aussi issue de l'histoire. Et je trouve que c'est une jolie histoire peut-être à raconter avec Bruegel. C'était Bruegel.
C'était Bruegel. J'ai un peu mal d'être ici parce que je vous entends parler d'histoire et j'ai pas, c'est pas mon domaine. Je pense qu'on m'a invité ici parce que je suis québécois, je suis étranger. C'est probablement le seul apport que je puisse vous apporter, mais c'est ça, je vous écoutais, c'est très intéressant. Toi, tu parlais de flou tantôt. Moi, j'aime vivre dans le flou. J'adore avoir le sentiment que, justement, je n'en fais pas partie de l'histoire. Parce que il y a une partie de l'humain que j'aime bien qui est de l'ordre de l'émotion. L'émotion, c'est flottant, bon, ouais, c'est ça. C'est pas tellement à ma place, finalement.
Mais tu disais que à 16 ans, tu avais vu une image de Bruegel et que tu avais eu le déclic et tu t'étais dit, c'est ça que je veux faire.
Dans ce sens-là, l'histoire m'en intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que si j'ai à recueillir, si moi, puis je suis tout à fait d'accord, on dépend de l'histoire. De voir qu'à travers le temps, l'expérience humaine est toujours enrichie, finalement, des mêmes choses et les mêmes craintes. J'ai vu, je me souviens, il y a longtemps, ici, dans les grottes de Fontcombe, des dessins d'hommes préhistoriques, une chose qui était profondément belle. Il y avait un mâle et une femelle reine, et la femelle était en train d'accoucher, et le type, l'artiste, c'était peut-être une femme aussi, avait dessiné le mâle qui léchait le front de la femelle. Et je me souviens, le type qui faisait faire la visite avait dit que ça remontait peut-être à il y a 30 000 ans. Et d'ici, en 30 000 ans, on avait fait un pas extraordinaire là, technologiquement, mais sur le plan humain, on était exactement les mêmes. Et c'est ce flou-là dont vous parlez, c'est ce flou-là qui voyage à travers l'histoire, qui fait toujours partie de l'histoire et qui en même temps n'en fait pas partie parce que il n'y a pas d'évolution. C'est un état, c'est l'éther. Et dans le conte, dans la peinture, moi, c'est ce que j'aime, c'est aller chercher ça au-delà de la représentation. C'est l'humain.
Oui, bonjour. Moi, je suis étudiant en master d'histoire. Et donc, je voudrais revenir au sujet. Pour vous, véritablement, quelle est la place de la science-fiction dans l'histoire? Donc, peut-être, au futur, on va faire une histoire de la science-fiction. Une histoire de la science-fiction, pardon. Peut-être que bientôt, on a déjà fait une histoire donc de la littérature et tout. Mais quelle est la place, véritablement, de la science-fiction dans l'histoire? Et deuxième question après, l'inverse, c'est-à-dire dans la science-fiction, que récupère-t-on, que garde-t-on de l'histoire? Donc on a parlé de vulgarisation, on a parlé peut-être, moi je voudrais parler peut-être de l'hommage. Qu'est-ce que vient faire la science-fiction finalement? Quelle est la place donc, de la science-fiction dans l'histoire? Et c'est peut-être une question trop vaste.
Ouais, je ne pense pas qu'on arrivera à répondre dans les deux minutes qui restent. Je voulais juste dégrossir la question. Est-ce que c'est au niveau du genre littéraire, votre question? Ben, moi, j'ai l'impression que la science-fiction, comme genre littéraire, c'est un genre qui est amené à se redéfinir périodiquement et régulièrement. Et peut-être qu'un jour, ce ne sera plus du tout de la science-fiction, et qu'on appellera science-fiction un corpus d'œuvres qui regrouperont les œuvres qu'on connaît et d'autres qu'on trouvera assez mystérieux d'associer. Pour la prédiction, là, je ne suis pas très doué, mais j'ai remarqué qu'on redéfinit la science-fiction assez régulièrement à la lumière de ce que sont les sciences, et de ce qu'on appelle le roman, la nouvelle, les fictions dans le sens large. Et il y a une sorte de dialectique qui redéfinit la science-fiction de temps en temps.
Pour rebondir sur ce que disait Sylvie tout à l'heure à propos de Brian Stableford et de l'enseignement d'une science qui est de plus en plus cumulative et qui va devenir impossible, peut-être que la science-fiction est l'un des outils qui permettra d'aborder... cette science, c'est un outil de recul. C'est un outil qui est peut-être plus du côté de la vulgarisation, mais c'est un outil de recul. C'est peut-être l'outil dont on a besoin en ce moment. C'est peut-être pas tout à fait un hasard si le genre s'est popularisé au moment de la société de l'information. Après, quant à l'histoire de la science-fiction, le chantier a été déjà pas mal dégrossi depuis quelque temps quand même. Hein. Je crois qu'il y a Serge Lehmann qui traîne dans le coin. Et,
non, il n'est pas grave.
Il n'est pas là. Non.
Alors moi, ce que je pourrais répondre sur ce que la science-fiction apporte à l'histoire, donc moi je prends ça dans un sens beaucoup plus large. J'aurais trois réponses assez factuelles en fait, donc pas très théoriques. Un, en tout cas sur le plan du cinéma, ça apporte beaucoup de blockbusters, hein, et c'est clairement, ça forme nos imaginaires. Hein, même les gens qui ne se prétendent pas amateurs de science-fiction, enfin qui... quasiment tout le monde, enfin il n'y a qu'à voir les entrées, hein, voit des films de science-fiction sans s'en apercevoir. Et même d'ailleurs, il y a un philosophe qui s'appelle Olivier Pouriol, que vous connaissez peut-être, qui s'est fait une spécialité de comparer, enfin d'utiliser le cinéma pour faire de la philosophie. Et en fait, une fois, j'ai assisté à une de ses conférences, et en fait, quasiment toutes ses références sont des films de science-fiction. Et je ne suis même pas sûre que... Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais il y a vraiment ce côté-là donc, qui est très difficile à identifier, mais qui est la formation d'un imaginaire commun. Deuxième chose, plus précisément, il y a eu une enquête, il y a maintenant, je pense, bien 20 ou 30 ans, auprès des ingénieurs de la NASA. Et il apparaît que la plupart des ingénieurs de la NASA, et c'est probablement quelque chose de généralisable, au-delà, quand on discute, disons, avec des gens qui poursuivent une carrière scientifique, beaucoup de gens se sont engagés dans une carrière scientifique parce qu'ils avaient lu des livres de science-fiction. Donc ça, c'est un effet aussi concret, difficile à identifier parce qu'il est indirect. Et il y avait une troisième chose, oui, voilà. Donc là, moi, je suis donc engagée dans un projet de recherche à Bristol qui concerne la question de l'amélioration humaine, de l'augmentation humaine, donc que j'ai un petit peu évoqué, hein, c'est-à-dire tout ce qui est cyborg, poursuite de prolongation de la vie, etc. Et il y a un groupe philosophico-politique très actif sur le plan international dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle les transhumanistes. Hein, et quand on, si vous regardez un peu sur le web, moi j'ai une hypothèse, hein, qui demande à être confirmée par des faits, mais quand je regarde un petit peu leur discours et leur programme, et c'est un vrai programme politique, philosophique, et qui n'est pas simplement des idées en l'air, mais il y a des moyens qui sont donnés derrière, et c'est un programme qui est, à mon sens, entièrement inspiré par la science-fiction. C'est-à-dire que pour moi, ils ont lu les mêmes livres de science-fiction que moi, Greg Egan, Brian Stableford, John Varley, Asimov, etc. Et ils transforment la fiction, sans forcément le dire de façon très explicite, en programme politique. Donc peut-être, s'ils arrivent à leur fin, on pourra vraiment dire, là pour le coup, que la science-fiction aura, en tout cas, changé le monde de façon radicale, parce que c'est vraiment leur objectif.
C'est bon. On va s'arrêter là. On vous souhaite une bonne soirée. Et bonne fin de festival. Tous les membres du panel seront, je pense, en dédicace au salon du livre, dans la bulle du livre, juste derrière.